Vous écoutez RTL.
Nous sommes jeudi, nous sommes le 26 juillet et il est 7h sur RTL.
RTL Matin avec Jérôme Chapuis.
Et Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une, on en parlait à l'instant, une chaleur de plomb.
18 départements en alerte canicule, on ne dort pas très bien la nuit et en journée, le coup de chaud menace. Le SAMU enregistre ses premiers appels. Dans les hôpitaux, tout le monde est sur le pont, vous allez l'entendre. Emmanuel Macron s'empare du dossier Benalla. Après une semaine de silence, le président s'est exprimé deux fois en 24 heures. Hier, dans les Hautes-Pyrénées, il a répondu aux journalistes pour mieux les mettre en cause. À suivre également, Redouane Faïd aperçu à Sarcelles, près de Paris. Dans sa fuite, le braqueur en cavale a semé beaucoup d'indices. Les États-Unis et l'Europe font la paix sur les tarifs douaniers. Accord trouvé cette nuit entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker. Et puis le Tour de France, apparemment, s'est plié après l'étape pyrénéenne d'hier. Geraint Thomas est plus que jamais en jaune.
Il y a de l'eau sur Mars, un gigantesque lac souterrain découvert pour la première fois sur la planète rouge. La nouvelle a fait sensation hier. On en parle avec l'astrophysicien Francis Rocard à 7h20. Avant cela, de l'eau encore. Notre carte postale des vacances, on en découvre des choses quand on se balade sur la rivière en plein milieu de Strasbourg.
D'un seul coup, c'est bon, on est dans la nature.
On a vu plein d'animaux, même une tortue, hein, et des canards, et des cygnes. Ce
sera un été en France à la fin de ce journal.
RTL Matin.
Vous ouvrez peut-être un œil à cette heure-ci, à supposer que vous ayez réussi à dormir.
Oui, pas facile de trouver le sommeil par ces fortes chaleurs. Actuellement, 18 départements sont en alerte orange canicule, du Pas-de-Calais à la Drôme. Ce jeudi sera sans doute la journée la plus chaude de la semaine, avec des températures maximales de 37-38 degrés dans la vallée du Rhône. Le problème, c'est que la nuit, ça ne baisse pas beaucoup, pas assez en tout cas. Alors pour dormir au frais, chacun a son astuce.
On dort les fenêtres ouvertes en faisant des courants d'air dans l'appartement.
Oui, on a cette solution. Mon mari a pris une douche et ça lui a permis de dormir parce que sinon on ne dort pas. Il fait vraiment très très chaud. Les ventilateurs, ça fait tellement de bruit que on laisse tomber les ventilateurs.
On ferme les volets dans la journée avec les fenêtres ouvertes à l'intérieur et puis on ouvre le soir quand il n'y a plus de soleil. C'est les vieux trucs des gens du midi, ça.
Là, j'ai pas encore acheté de ventilateur, mais je pense que je vais le faire.
Il faut dormir à poil. C'est la seule solution.
Chacun son truc, on l'entend au micro RTL de Marion Cazanov. Alors plus sérieusement, cette vague de chaleur extrême fait craindre le pire pour les personnes les plus vulnérables. Les premiers appels liés à la canicule ont été enregistrés hier au SAMU de Paris et d'ores et déjà, les hôpitaux parisiens sont prêts, Élodie Guillard.
Oui, c'est une vigilance de tous les instants. Les équipes de la PHP scrutent en continu le nombre de passages aux urgences, par âge et selon les symptômes, pour voir si l'activité est normale ou si les pathologies liées à la chaleur sont en augmentation. Si besoin, du personnel de santé peut être mobilisés. Même en plein été, ils répondent présents face à une potentielle crise sanitaire, explique Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont infirmières ou médecins, ont le droit à des vacances. Mais pour autant, on est habitué à organiser la continuité des soins en juillet, au mois d'août. Et si besoin est, il y a des gens qui savent interrompre leurs vacances ou travailler un peu plus.
L'attention est aussi portée sur le nombre de lits disponibles dans les différents services. Dans la mesure du possible, le plan canicule prévoit d'accélérer la sortie des patients dont l'état ne justifie pas d'hospitalisation ou encore de différer les opérations ou les examens qui ne sont pas urgents. Quant aux aspects purement pratiques, il faut éviter la panne de courant. Les climatisations des hôpitaux vont être largement sollicitées avec ces températures caniculaires. De gros groupes électrogènes sont donc déjà prêts à entrer en action.
Les informations RTL d'Élodie Guillard. Notez qu'un jeune homme est mort noyé hier alors qu'il se baignait dans le bassin de la Villette à Paris, à quelques mètres de l'opération Paris-Plage qui permet précisément de se baigner dans le bassin mais dans une zone surveillée.
Il a gardé le silence pendant une semaine. Désormais, Emmanuel Macron s'empare du dossier Benalla.
Oui, première intervention mardi soir devant les députés de la majorité. Depuis, le président a pris de la hauteur. Il est en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Petit bain de foule improvisé hier soir à Bagnères-de-Bigorre. Et pour la première fois, il a répondu aux questions des journalistes. Interview en forme de mise au point.
Ce qui devait être fait a été fait. Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes dans le tournant de l'été. Donc, chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Et après, moi, je suis responsable, c'est tout. Mais vous avez dit ces derniers jours beaucoup de bêtises sur soi-disant des salaires, des avantages. Tout ça était faux. Et il est important de le dire aux Français parce qu'après, les Français disent « Moi, je travaille dur et je paye mes impôts et, c'est pas... et donc c'est intolérable. » Ils auraient raison de le penser, mais ce qui leur a été dit pendant des jours et des jours était des fadaises. Et donc, il a fait une faute, M. Benalla. Il a été sanctionné. C'était à mes yeux proportionné.
Alors le chef de l'État se dit fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à l'Élysée. Il dénonce le procès politique qui lui est fait à partir d'une dérive individuelle. Et pour le reste, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Pour le politologue Philippe Moreau-Chevrolet, c'est très clair. Le président reprend la main et se place en position de force.
La stratégie d'Emmanuel Macron consiste à faire d'une part comme si de rien n'était auprès du grand public, et puis d'un autre côté de venir à la rescousse de sa majorité avec des poses très viriles, très martiales pour rappeler qu'il est le chef et qu'au fond, on peut s'abriter derrière lui, il ne lâchera personne. Tout l'enjeu d'Emmanuel Macron, c'est de montrer qu'il n'a pas perdu le contrôle de la séquence médiatique, pour se positionner un peu en hauteur. On ne prend pas en compte au fond l'émotion populaire. Et on pense que ça va passer. La force de Macron, c'est qu'il est capable de tenir ça très 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 longtemps. Après, l'inconnu, c'est le prix politique qu'il faudra payer. Et en l'occurrence, il y en aura bien. Non.
Philippe Moreau, Chevrolet, joint pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. Dans cette affaire, les auditions se poursuivent au Parlement. Rendez-vous important aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui doit être entendu au Sénat dès 8h30. C'est le plus proche collaborateur du président, son homme de confiance.
Ça se passe au Sénat donc ce matin à 8h30 et à 8h moins le quart, c'est le président du Sénat qui sera l'invité politique de RTL. Gérard Larcher sera avec nous dans ce studio.
Et notez qu'hier soir, le bureau d'Alexandre Benalla à l'Élysée a été perquisitionné. Les enquêteurs cherchent à savoir dans quelles conditions il s'est procuré un brassard de police. C'est seulement la deuxième fois sous la Ve République qu'une perquisition a lieu au palais présidentiel.
RTL Matin, il est 7h06.
Redouane Faïd a échappé de peu aux gendarmes. Il a été repéré mardi à Sarcelles dans le Val d'Oise.
Repéré lors d'un banal contrôle routier, les gendarmes l'ont suivi jusqu'à un centre commercial où il a réussi à s'enfuir à pied avec un complice. Le braqueur a dû abandonner sa voiture et les explosifs qu'elle contenait. Près d'un mois après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne, l'étau se resserre, Cindy Hubert.
Oui, la chance semble effectivement sourire aux enquêteurs, car si cet homme en cavale est bien Redouane Faïd, le braqueur a laissé bien malgré lui un certain nombre d'indices conséquents dans sa fuite. Une mine d'or pour les policiers, puisque Faïd ne s'attendait pas à s'engager dans une course-poursuite et à abandonner sa voiture au beau milieu d'un parking de supermarché. Et c'est en quelques secondes qu'il a ensuite dû prendre la fuite à pied, le visage découvert, sans cagoule ni chapeau, juste des lunettes de soleil. Les enquêteurs ont donc désormais à leur disposition de la vidéosurveillance, mais aussi des traces ADN et des empreintes relevées dans la voiture. Des analyses sont en cours pour identifier le braqueur de manière formelle, mais aussi de possibles complices, et notamment l'autre passager de la voiture. Selon nos informations, ce pourrait être l'un des frères de Faïd. De quoi aider la traque entamée depuis quasiment presque un mois.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. C'est un feuilleton qui a commencé en 2007 et qui est loin d'être fini. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville aura un an de retard supplémentaire et il coûtera 400 millions d'euros de plus à cause d'un problème de soudure. Il n'y aura pas de mise en service avant fin 2019, ce qui retarde d'autant la fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus vieille de France. Au total, le chantier de l'EPR cumule 8 années de retard et son budget a triplé pour atteindre 11 milliards d'euros.
Aux États-Unis, on s'attendait à une rencontre explosive. Finalement, Donald Trump et Jean-Claude Juncker ont trouvé un terrain d'entente sur les tarifs douaniers.
Oui, le président américain et le président de la Commission européenne se sont rencontrés hier soir à Washington. Au menu, les surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen et les représailles de l'Union sur les produits importés des États-Unis. Cette crise semble en passe d'être résolue. Par quel miracle, Nicolas Tarka ?
Eh bien, les Européens ont fait sur le papier beaucoup de concessions. Et c'est un Donald Trump tout sourire qui s'est présenté dans les jardins de la Maison-Blanche pour annoncer un grand jour pour le libre-échange. Concrètement, l'Europe va importer plus de gaz naturel et surtout du soja, ce qui va soulager les agriculteurs américains menacés par la guerre commerciale avec la Chine.
L'Union européenne va commencer presque immédiatement à importer notre soja. C'est un marché immense. L'Europe va acheter beaucoup de soja de nos agriculteurs du Midwest. Et je te remercie pour ça, Jean-Claude.
L'objectif entre Washington et Bruxelles, c'est de parvenir à un libre-échange complet entre les deux blocs, c'est-à-dire sans tarifs douaniers ni normes techniques. En échange, Jean-Claude Juncker a obtenu le gel de la taxe de 20% envisagée sur les voitures européennes pour l'aluminium et l'acier. Rien n'est encore fait.
Pendant les négociations, il n'y aura pas de nouveaux tarifs douaniers. Et les taxes sur l'acier et l'aluminium vont être réévaluées.
Épreuve de cette entente cordiale retrouvée, Donald Trump a tweeté cette nuit une photo de Jean-Claude Juncker lui faisant la bise. La légende, les États-Unis et l'Europe s'aiment. Ça ne s'amende pas.
C'est magnifique. Nicolas Tarka aux États-Unis pour RTL.
Sur le tour ce matin, il n'y a plus beaucoup de suspense.
RTL Tour de France 2018.
Comme prévu, l'étape d'hier a figé la hiérarchie. C'est le Colombien Nairo Quintana qui l'a emporté en solitaire au col du Porté. Au général, Geraint Thomas conforte son maillot jaune et son coéquipier Chris Froome recule à la troisième place. Visiblement, les jeux sont faits. Nicolas Georgerot, le Gallois, est presque assuré de remporter le tour.
Oui, il n'en a pas à rajouter, il a simplement savouré le moment en franchissant la ligne. Geraint Thomas a sans doute accompli le plus dur, résisté aux assauts lors de cette étape de tous les dangers, même s'il s'impose une prudence avant de crier victoire.
J'essaie d'avoir la même approche au jour le jour. Je ne me soucie que d'une chose, bien récupérer, l'alimentation, l'hydratation, c'est ma préoccupation du lendemain.
Dave Brailsford, le manager de l'équipe Sky, adoube son compatriote gallois.
Geraint était le meilleur, c'est les jambes qui comptent, et puis il n'y a pas de secret.
Situation simplifiée désormais, Froome décramponné dans les deux derniers kilomètres, voilà un quadruple vainqueur du Tour qui redevient équipier.
Geraint Thomas, il a le maillot jaune, il est bien positionné pour gagner ce Tour de France. Il est super fort maintenant et je crois avec un avantage de presque 2 minutes, sera très difficile pour perdre ce Tour de France.
Le lauréat sortant fait allégeance, il va essayer aussi de quitter la grande boucle la tête haute en préservant sa place sur le podium.
Nicolas Georgerot qui suit le Tour de France pour RTL. Cette étape a été fatale à Romain Bardet. Le Français a reculé à la 8e place du classement. Aujourd'hui, 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau, 171 km et quasiment que du plat. Ça va reposer les jambes.
C'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez dans quelques minutes avec le portrait ce matin de
Aung San Suu Kyi.